Littérature sans frontières. Catherine Fruchon-Toussaint.
Bonjour à toutes et à tous. Poète, romancier, essayiste, grand lecteur, dessinateur, réalisateur, notre invité aujourd'hui est un écrivain total, dont les livres traversent toutes les frontières. De son île natale, Haïti, au Canada, dont il est citoyen en passant par la France, où il siège à l'Académie, jusqu'à l'Asie, sans oublier le continent africain, son œuvre est irriguée de tous les sangs, de toutes les chairs. Rien de ce qui est humain ne lui est étranger. Bonjour Dany Laferrière.
Bonjour.
À votre bibliographie riche de plus de 30 titres, vient de s'ajouter ce nouveau volume aux éditions Grasset, intitulé « Petit traité du racisme en Amérique ». Un sujet que vous avez déjà abordé, mais qui ici devient le centre de votre réflexion à travers de nombreux textes qui, de scènes vues ou entendues, du passé ou du présent, de l'esclavage à l'assassinat d'un homme noir par un policier, de la politique à la littérature, dressent le portrait d'une société malade. À quel moment il vous a paru absolument nécessaire d'écrire frontalement sur le racisme, Dany Laferrière ?
Oh, peut-être quand j'ai trouvé la forme. Vous savez, on peut écrire sur des sujets comme ça, ça peut endormir les gens d'une certaine façon. On a tellement entendu parler à la radio, dans la télévision, dans les journaux. Les gens racontent des histoires au sujet du racisme. Ils en ont vécu, ils en ont l'expérience, ils ont entendu parler. Alors, je me suis dit qu'il fallait trouver une façon de l'écrire. La forme était fondamentale pour moi, cet éclatement dont vous avez parlé, et prendre le sujet par tous les angles, et toutes les formes aussi, la forme poétique, presque le haïku, ou les petits portraits, les réflexions, les méditations, et toutes sortes de choses, les personnages, et puis les paysages aussi.
Alors je m'adresse à l'académicien français, maintenant celui qui est à la commission du dictionnaire. Quelle est la définition la plus juste du mot racisme selon vous, Dany Laferrière ?
C'est une douleur. Je n'ai pas une définition directe de racisme, exclusion naturellement, en accusant quelqu'un de ne pas avoir la bonne couleur ou parce que je n'ose pas prononcer le mot race. Le racisme existe, mais la race n'existe pas. C'est un cas particulier, puisque scientifiquement, la race n'existe pas, mais le racisme, on peut le subir. Mais je crois qu'il y a une ligne droite dans le racisme qu'on ne pourrait pas éviter. Ça commence par une humiliation, une série d'humiliations constantes et continues, qui finit par vous donner un sentiment d'infériorité. Et c'est de ce sentiment d'infériorité qu'on se sert de cela pour vous mettre une valeur sur vous. Généralement, c'est vous-même qui mettez cette valeur. À un moment donné, vous avez l'impression que vous ne valez pas beaucoup. Vous mettez un prix sur vous, et c'est le prix de l'esclave. Donc, voilà, toute l'affaire, c'est que le racisme rapporte beaucoup d'argent à ceux qui vivent dessus, c'est-à-dire les gens, les citoyens, et qui sont ostracisés ainsi, qui coûtent pas cher, eh bien, rapportent gros à l'industrie, puisqu'ils sont très peu payés pour une énergie constante.
Alors ce racisme, vous le dites très bien dans ce livre, Dany Laferrière, c'est pas une expérience que vous avez connue enfant, en Haïti, mais que vous avez plutôt découverte plus tard, c'est ça, quand vous êtes allé sur précisément le continent nord-américain ?
Oui, mais j'étais trop armé pour découvrir vraiment dans ma chair. Ma chair était, ma psychologie était trop bien construite, mon identité était trop forte, puisque je viens de la République d'Haïti, un pays qui était indépendant depuis plus de 200 ans, et je suis arrivé en 76 en Amérique du Nord. Personne ne pouvait me donner cette impression d'être inférieur. Je ne pouvais pas avoir l'impression d'être inférieur, c'était impossible. Donc, je l'ai observé chez les autres, ce que ça fait. Et puis, j'ai oublié un peu cela, et au fil du temps, pour passer à autre chose, à la littérature, à la lecture, à d'autres expériences, parce que le racisme vous enferme dans un milieu restreint, dans une zone très réduite, et qui fait que vous ne pourrez pas vous intéresser aux autres. Donc, petit à petit, vous devenez de plus en plus ignorant de l'espace qui vous entoure. Ça aussi, et c'est un des désagréments du racisme. Alors, ayant fait le tour du monde, regarder les choses, j'ai fini par regarder les gens autour de moi qui peut-être souffrent. Et essayer de voir de quoi il souffre et comment ça s'exerce et pourquoi ça continue.
Et donc particulièrement sur le continent de l'Amérique. Alors qu'on sait très bien, vous et moi, Daniela Ferrière, que le racisme est partout. En quoi le racisme en Amérique est-il singulier ?
Ah oui, il est singulier parce que d'abord c'est la seule grande puissance où l'esclavage s'est déroulé sur le territoire même. Et la France l'a fait ailleurs. L'Angleterre l'a fait ailleurs, l'Espagne l'a fait ailleurs, le Portugal l'a fait ailleurs, les États-Unis, c'était dans le sud des États-Unis, c'était sur le territoire américain. Et puis le nombre, il y a 45 à 48 millions d'Américains noirs. Je ne pouvais pas le faire sur le Canada a 38 millions d'habitants, tout court. Et donc on a affaire à quelque chose d'assez, et personne n'a autant de morts, pas moi par an. Et dernièrement, on a vu comment la violence des rapports sociaux depuis l'arrivée de Trump aux États-Unis, il n'y a pas de limite. Et donc, le racisme, c'est un homme qui étouffe un autre, un policier blanc qui étouffe un noir citoyen, et pendant 10 minutes, sous l'œil du monde entier.
Et ça, vous faites référence à l'assassinat de George Floyd en mai 2020. Est-ce que ça a participé aussi à votre envie de prendre le crayon, de prendre les armes, j'avais envie de dire, Daniela Ferrière.
Non, j'ai pas pris les armes. Pas du tout, pas du tout.
Oui, mais la littérature est aussi une arme.
Oui, je sais, mais j'ai pas pris les armes. C'est un livre tout en nuances, précisément parce que je trouve que la nuance est plus subversive que tirer. Non, l'idée précisément, ce n'est pas d'éliminer le raciste, c'est d'en faire un allié. C'est ça qui est intéressant et c'est ça que Martin Luther King a tenté de faire. Donc je ne suis pas du tout dans la situation de Martin Luther King, je ne suis pas un militant, un activiste. Je suis un écrivain qui tente de faire voir la chose. Je parle de petites choses très minuscules et qui peuvent avoir une importance. Par exemple, l'importance de l'esthétique et de la beauté dans les rapports humains, dans la société. Et j'ai imaginé, par exemple, qu'une jeune adolescente, une jeune fille ou un jeune adolescent qui est en rupture avec sa famille, comme tous les adolescents, et ses parents sont des gens du Ku Klux Klan, même s'ils sont d'accord avec leurs parents sur des questions de racisme, mais je suis sûr qu'ils ne pourront pas être d'accord sur le vêtement. Et ce que les gens du Ku Klux Klan portent, un adolescent de 17 ans ne voudra pas porter ça. C'est trop laid. Alors, cette tête d'oreiller qui a les deux trous, et puis toute cette simagrie de croix en flamme, et puis des gens qui se cachent pour tuer, enfin, cette lâcheté, enfin, tout ça ne va pas avec ce que pourrait ressentir un jeune adolescent. C'est pas bien, personne ne devrait vous faire porter un truc pareil, surtout pour sortir en ville. On peut pas porter ça, point. C'est-à-dire, on peut être contre les Noirs, mais non, je vois très bien l'adolescent qui dit « Papa, tu me feras pas porter ça ».
On entend toute l'ironie dont vous êtes capable, Daniela Ferrière, et de cet humour que vous avez vraiment voulu mettre aussi dans ce livre en disant que c'était par courtoisie aussi, parce que le sujet est trop grave.
Oui, et puis le mot, c'est pas du tout un petit truc à côté. C'est quelque chose de fondamental. C'est une façon d'être, c'est une posture dans le monde. Et c'est une respiration du monde. Et ce n'est pas fait pour dévitaliser l'argument. C'est fait au contraire pour lui donner une force de persuasion. Et c'est ça que j'appelle la nuance, c'est la force de persuasion. Vous savez, la nuance, c'est comme l'amour. L'amour, son but, c'est l'individu, c'est d'être aimé quand il n'est pas là. Eh bien, la nuance porte plus loin que l'argument frontal.
La nuance, comme vous le disiez, Daniela Ferrière, mais aussi avec l'importance du mot juste. Par exemple, dès le début, il y a ce petit quatrain presque qui s'intitule « Le mot nègre » où vous écrivez « Ce n'est pas le mot qu'il faut traquer, car il y a des gens qui savent comment faire pour dire le contraire de ce qu'ils pensent. » Alors, qu'est-ce qu'il faut traquer si ce n'est pas le mot nègre ?
Ah ben, vous savez, le mot nègre, vous pouvez toujours interdire aux gens de le dire. Ça ne veut pas dire qu'ils ne vont pas le penser. Et s'ils ne peuvent pas le dire et qu'ils le pensent, ils vont se sentir censurés. ils auraient l'impression d'être à égalité avec la personne qu'ils traitent de nègre, puisque vous n'êtes que noir et ostracisé, moi je suis incensuré, c'est la même chose, on est dans le même combat. S'il peut le dire précisément, bien, il est en faute complète. Il a dit le mot et il est ce qu'il a dit, donc ça fait double faute. On ne peut pas interdire aux gens d'être eux-mêmes. On peut mettre des règles pour qu'en société, on puisse vivre dans une condition collective. Parce que pour que la violence avance, il faut quand même un minimum de légitimité. Si la personne se sent censurée, il se sent en état de légitimité. Il va frapper plus fort. Donc, laissez tout passer et vous allez voir ceux qui vont apparaître. Et vous donnez l'impression aussi, la possibilité aussi, à ce que quelqu'un dont vous n'avez aucune idée puisse contester l'autre. Moi, je me souviens d'avoir été chercher un appartement à Montréal et je suis arrivé dans un endroit, il y avait 4 ou 5 blancs, on peut dire, qui étaient là. Et quand j'ai demandé l'appartement, celui, le concierge, m'a répondu tout de suite, on ne loue pas aux nègres. Et il y avait 3 autres amis avec lui. J'ai dit, mais est-ce que vous êtes d'accord avec ce qu'il a dit? Et j'ai dit, mais non. C'est... Et puis la discussion a commencé. Ça a duré 3 heures, j'ai eu l'appartement. C'est-à-dire, il faut provoquer la discussion. Puisque si j'avais pris l'affaire de manière frontale et j'avais pensé qu'ils sont tous racistes comme lui, et que d'ailleurs, il n'était même pas d'ailleurs, il m'a dit, c'est pas moi, c'est le propriétaire qui établit les règles. Vous savez, donc c'était un raciste d'une minute. Donc il faut évaluer toujours les choses pour savoir à qui vous avez affaire. C'est le propriétaire que vous ne voyez pas, c'est lui le raciste. Il ne sera jamais dans une situation pour employer le mot nègre. Il ne sera jamais sanctionné là-dessus parce qu'il n'a jamais rencontré de nègre. Il sait qu'il doit louer ses appartements à des gens pauvres, et blancs, noirs, tout ça. Et donc c'est ça l'affaire. Quand vous traquez les mots, quand vous traquez des attitudes un peu scandaleuses ou un peu qui dépassent les bornes, vous traquez ceux qui sont le plus proche de vous. Dites-vous bien que celui qui vous empêche de vivre, vous ne le verrez jamais. C'est Édouard Glissant qui l'avait bien dit. Il avait dit que le drame de l'esclavage, c'est que l'esclave, en parlant de Saint-Domingue, d'Haïti, qui s'est rendu libre par une guerre, n'a jamais fait la guerre contre le vrai maître. Le vrai maître est resté à Bordeaux, Nantes, La Rochelle. Ce sont des sous-fifs qui sont dans les colonies. Il n'y a aucun vrai propriétaire riche qui va aller dans l'enfer de Saint-Domingue. Il va envoyer d'autres gens. Donc, ce ne sont même pas les vrais. C'est le fric qui est au cœur de l'affaire. Et c'est celui qui fait le fric. C'est lui le raciste.
Nous allons continuer dans un instant, Dany Laferrière, de feuilleter avec vous ce kaléidoscope de réflexion qui constitue ce nouveau livre, Petit traité du racisme en Amérique. Mais pour l'instant, une pause musicale et je vous propose d'écouter Bessie Smith, dont vous faites un très beau portrait ici. La femme au cœur lynché, dites-vous. Elle est décédée en 1937 et elle a interprété un grand nombre de magnifiques chansons. Est-ce qu'il y en a une en particulier que vous souhaiteriez écouter maintenant ?
Oh, le blues du découragement.
Nobody knows you when you are done and out. Alors on l'écoute.
Once I lived a life of a millionaire, spending my money I didn't care. I carried my friends out for a good time, buying bootleg liquor, champagne and wine. When I begin to fall so low, I didn't have a friend and no place to go. So if I ever get my hand on a dollar again, I'm gonna hold on to it till them eagles grin. Nobody knows you when you're down and out. In my pocket, not one penny, and my friends, I haven't any. But if I ever get on my feet again, then I'll meet my long-lost friend. It's mighty strange, without a doubt, nobody knows you when you down and out. I'm
Retour sur RFI dans Littérature sans frontières en compagnie aujourd'hui de Dany Laferrière qui publie Petit traité du racisme en Amérique aux éditions Grasset. Un livre qui, derrière des actes, des faits, des chiffres, remet des noms, des visages, des vies sur toutes celles et ceux qui ont été confrontés à cette violence, à cette tragédie. Mais aussi un livre qui, me semble-t-il, nuance et décentre le paradigme noir-blanc vers la question du pouvoir. Pour preuve, ces textes qui mettent en lumière les écrivains, de Harriet Beecher Stowe à Toni Morrison, en passant par James Baldwin et Maya Angelou, qui ont chacune et chacun remis le pouvoir au centre de leur livre. Et d'ailleurs, pour aller dans le sens de cette nuance, rappelons que Harriet Beecher Stowe, l'autrice de la case de l'oncle Tom dans les années 1850, était blanche. Et vous dites que ce roman a été révolutionnaire. En quoi, Dany Laferrière ?
Parce qu'elle a voulu, avec ce livre, saboter la richesse basée sur l'esclavage. Elle était abolitionniste, c'est-à-dire contre l'esclavage. Elle a créé un personnage, l'oncle Tom, et qui aimait tout le monde. Et il fallait poser la question, est-ce qu'il faut garder en esclavage un homme aussi bon ? Donc c'est la question au cœur même de la judéo-chrétienté et qui se posait. Ce sont des protestants, les Américains. Et voilà, et cela a provoqué une si grande émotion qui a permis à Abraham Lincoln de rassembler les jeunes soldats, les jeunes gens, pour aller faire une guerre contre le sud des États-Unis. Voilà encore une particularité du racisme aux États-Unis qu'il n'y a dans aucun autre pays. Aucun pays n'a fait de guerre civile sur son propre territoire pour éradiquer l'esclavage.
La guerre de sécession.
La guerre de sécession du nord contre le sud. Je n'ai pas dit du noir contre le blanc, du nord contre le sud. Donc noir et blanc, des deux côtés de cette bataille contre l'esclavage. Donc c'était important que le roman La case de l'oncle Tom ait pu provoquer une telle émotion qui a poussé à la guerre. Et d'ailleurs, quand Abraham Lincoln a rencontré Harriet Beecher Stowe, qui était une petite femme physiquement, elle lui a dit « Mais c'est cette petite femme qui a provoqué une si grande guerre. »
Un livre donc qui déclenche, quelques années après la publication, donc cette guerre de 1861-1865, où vous rappelez, Dany Laferrière, que des Blancs sont morts aussi pour la cause.
Ah ben majoritairement. Majoritairement, il y a beaucoup plus de Blancs que de Noirs qui sont morts dans cette guerre de sécession, et souvent sans savoir même pour quelles raisons. Mais nous saluons ces actes grandioses. Et ce fut le plus grand best-seller du 19e siècle.
Et pour rester sur la littérature, vous évoquez aussi Margaret Mitchell, qui a écrit « Autant n'emporte le vent ». Du point de vue d'une écrivaine sudiste, qu'est-ce que vous pensez de cette polémique selon laquelle il faudrait enlever tous les mots et tous les personnages racistes qu'elle évoque dans ce livre, ou au contraire, il nous éclaire justement sur une pensée de l'époque ?
Qu'il éclaire ou pas, je suis contre la censure. Il n'y a pas de débat pour moi de ce côté-là. Parce que sinon, déjà, on censure. Je veux dire, on censure tellement, sans le savoir même. Donc si on ajoute maintenant la censure des mots, alors là, je ne sais pas ce qui restera. Il faut faire attention à la censure. Tout ce qu'elle fait, c'est qu'elle efface les époques et tende à uniformiser. Nous allons vivre dans un monde où même le passé sera aussi uniforme que le présent, où l'on tend à enlever tout ce qui entoure.
En tout cas, ça prouve bien, Dany Laferrière, que si certains esprits commencent à imaginer censurer ce livre en particulier, Autant n'emporte le vent, c'est qu'il y a une puissance, une subversion de la littérature qui fait peur. Et vous l'écrivez d'ailleurs, qu'il faut écrire sans cesse des livres. Quelqu'un a dit dernièrement qu'écrire ce n'est rien. Ce n'est pas l'opinion des systèmes, des pouvoirs ou des instances supérieures. Le moindre poème les fait trembler, comme Ossip Mandelstam, même en prison, a fait trembler Staline. Depuis le début, l'alphabet renverse les puissances ou écrase les petits. Et à cet égard, vous citez d'autres écrivains comme James Baldwin, qui a été vraiment, dans les années 60, un intellectuel et un romancier de force. Mais qu'est-ce qu'il a réussi, selon vous, avec ses livres ?
Vous savez, chaque fois qu'on regarde ce qui a été fait, on le compare à ce qui n'a pas été fait. Mais on voit jamais ce que l'autre a empêché que ce soit fait. Nous sommes dans les années 50 quand paraît ce livre de James Baldwin, Next Time Fire, la prochaine fois le feu. L'Amérique n'a pas compris. C'est-à-dire, comment un jeune garçon de Harlem, maigrichon, les yeux globuleux, laid, homosexuel, ait pu écrire un essai aussi percutant. Il n'a pas étudié à Harvard. On peut comprendre un roman, des poèmes, mais une réflexion sur l'Amérique. Et la réflexion était explosive. Elle disait ceci, bon, les Blancs ne retourneront pas en Europe, les Noirs ne retourneront pas en Afrique. Vous êtes fait pour vivre ici, bien débrouillez-vous, c'est là que ça se passera. Donc c'était extrêmement important. Celui qui aurait dû prendre le flambeau de la violence, et venant de Harlem, des quartiers misérables, qui sont misérables pas par hasard, mais parce qu'on a construit la sensibilité d'un groupe social sur la misère, eh bien c'est lui qui défend, qui dit « écoutez, nous n'allons pas nous en sortir ». Et comme ça. Donc c'est important. Et s'il ne l'avait pas dit, je pense que ça aurait retardé les droits civiques. Et c'est avec des intellectuels comme cela, et en même temps des gens comme Rosa Parks, il a fallu ce lien-là entre la ferveur, la fièvre, si l'on peut dire, l'ardeur de James Baldwin, et aussi le calme, la sérénité de Rosa Parks, qui a refusé simplement, sur une autre base, c'est-à-dire, je suis un être humain, je ne suis pas obligé de me lever pour céder ma place à un homme, et quand je suis fatigué. Ça, il n'y a pas de noir ni de blanc là-dedans. On voit un être humain fatigué qui pense qu'il n'a pas à céder sa place. Ça, c'est ce qu'on appelle, les bras nous tombent. On est impuissant devant un tel argument. Et j'ai remarqué que dans son livre, qui était publié bien avant ce geste, James Baldwin avait abordé ce sujet d'une manière tellement élégante et nuancée. Il a dit, un des pasteurs de mes amis, beaucoup plus âgés que moi, m'avait dit, ne vous levez jamais devant une femme blanche dans un bus pour lui céder votre place. Alors lui, il a demandé, mais pourquoi ? Il dit, parce qu'aucun homme blanc ne se lèvera pour céder sa place à une femme blanche. Et Baldwin a dit, si on fait la même chose, alors à quoi bon ? Et il dit, moi je me lèverai à chaque fois qu'une femme paraîtra devant moi quand je suis assis. Donc ça veut dire que le pauvre petit noir qu'on a repoussé au fond de la forêt, c'est lui qui donne la leçon d'élégance humaine à cette société blanche. C'est ça qui a étonné dans le livre de Baldwin.
Puisque vous parlez de femmes, Daniela Ferrière, parlons de Maya Angelou et Toni Morrison. Vous leur consacrez deux très beaux textes et même un troisième où vous mêlez leur devis. Lequel voulez-vous bien nous lire dans cet extrait du petit traité du racisme en Amérique ? Toni Morrison et Maya Angelou, L'oiseau hors de sa cage ou Elle a le Nobel ?
Mais elle a le Nobel.
Point d'exclamation.
Elle a un port altier, elle est accueillante mais déteste la familiarité. Toujours au front, elle est noyée dans ses projets de romans, d'essais, de discours officiels à faire. C'est aujourd'hui une grande dame de lettres, mais ne vous y fiez pas. Elle s'intéresse à tout ce qui se passe autour d'elle. Son oreille capte tout. Les sons nouveaux, comme le bruit neuf d'un nouvel écrivain de talent qui arrive dans les parages. Elle sait comment ont été ses débuts. Elle est née à Lorraine, la 10e ville de l'État de l'Ohio, au moment de sa naissance en 1931. Lorraine était la plus grande ville du comté du même nom. Ça comptait 44 500 habitants. Ses parents ont eu 4 enfants, ce qui n'est pas une grosse contribution. Ils ne sont pas riches non plus. Le père soudeur, la mère femme de ménage, mais personne ne meurt de faim. C'est ce qu'on disait à l'époque, pour sauver la face. Ils vivent dans un cocon, elle fait de bonnes études. Elle savait déjà lire avant d'arriver à l'école. Les parents sûrement à la maison le livre de Frédéric Douglas, qui fait un tel éloge de la lecture. Toutes les familles ont cette Bible, mémoire d'un esclave, sur la table de chevet près de la Bible, comme les Misérables de Hugo en France. Elle fréquente tout de même la plus grande université noire, Howard University. Elle lit Tolstoï et le philosophe Alan Locke la prend sous son aile. Sa vie va bien, elle est sérieuse. Ce n'est pas du tout le parcours de sa grande amie Maya Angelou. Et un peu grave aussi, c'est une intellectuelle de choc qui réfléchit sur le suicide dans l'œuvre de Virginia Woolf. Elle a 39 ans, Elle a été éditrice, elle veut bien écrire. Son premier livre est une histoire que lui a racontée une amie d'enfance, une petite fille noire qui voulait avoir les yeux bleus. Elle élève seule ses deux enfants. Elle continue à écrire, ça parle toujours de la question identitaire, on n'en sort pas. On voit bien qu'elle s'est conduit un récit. Ses dialogues avancent avec une certaine aisance. Sa prose est luxueuse par moments. Mais il y manque un rien pour passer de bonne romancière à grande romancière. Ce rien est arrivé avec Beloved. Elle obtient le Pulitzer en 1988. 5 ans plus tard, c'est le Nobel. L'Amérique jubile. L'année précédente, qui marquait les 500 ans de l'arrivée de Colomb en Amérique, c'était le poète de Sainte-Lucie, Derek Walcott, qui l'avait raflée. Depuis, elle flotte sans jamais perdre de vue ce qui se passe en bas. Elle salue les jeunes plumes qui arrivent avec le printemps littéraire et oublie ce qui pourrait être de vrais rivaux. Elle s'entoure plutôt de femmes, noires pour la plupart. Elle surveille sa santé, le temps a passé. Elle n'attend qu'un seul événement, celui auquel elle ne pourra pas assister. D'ailleurs, Maya est morte depuis 5 ans déjà. Celle avec qui elle pouvait causer du bon vieux temps qui était si dur, si dur, si dur.
Merci beaucoup, Dany Laferrière, pour ce beau portrait de Toni Morrison que vous avez écrit et que vous nous avez lu. Qu'est-ce que vous aimeriez changer avec ce livre ?
Changer avec un livre ? J'aimerais bien qu'on le lise. C'est beaucoup.
Oui.
Et ben, c'est une chose incroyable. Vous écrivez chez vous, vous alignez des mots, tout le monde est à peu près au courant des 26 lettres de l'alphabet. Des gens qui n'arrivent même pas à finir les 2 pages de lettres que leur maman leur a envoyées lisent 250 pages de vous. C'est incroyable, c'est impensable, c'est extraordinaire. Je ne sais pas si ce livre changera quelqu'un, mais il m'a changé, moi. L'idée que des gens puissent me lire, que je ne les connaisse même pas, qu'ils soient de toute origine sociale, de toute race, de toute classe, de toute frontière, de tout en... Je pense que c'est l'une des choses les plus miraculeuses qui puissent exister. Mes mots.
Merci encore, Dany Laferrière, d'être venu nous parler de ce livre. Et puis, je rappelle aussi vos 2 publications précédentes qui sont tout aussi magnifiques. L'enfant qui regarde, une novella qui est apparue chez Grasset, qui en effet raconte l'histoire d'un petit garçon en Haïti qui est très calme et qui va regarder et assister à une scène incroyable. Et puis il y a aussi Dans la splendeur de la nuit, qui est ce magnifique recueil de textes et de dessins dans une mise en page totalement manuscrite, de la couverture à la dernière page, un livre beau et original qui est apparu dans la collection Point Seuil Poésie, dirigée par Alain Mabankou, à lire et à relire particulièrement à cette époque du 25e printemps des poètes qui se déroule en France et dans tous les territoires de langue française et dont le thème est cette année « Frontières ». Pour mieux les abolir, j'imagine. En tout cas, nous revenons à la boucle au début de cette émission.
Merci.
Et merci à Nicolas Benita qui a enregistré cette émission.
Vous pouvez réécouter cette émission sur le site RFI.fr en cliquant sur l'onglet Podcast. Et pour ne manquer aucun numéro de votre magazine, vous pouvez vous abonner à Littérature sans frontières dans votre application préférée et nous laisser un commentaire.